Mesdames et messieurs, chers amis, chers invités, représentants des sociétés civiles arabes en rébellion, assalamu alaikum. J'essaierai dans mon exposé de répondre à la question de savoir si le monde arabe a des caractéristiques communes, en même temps s'il est divers et quelle est la place des minorités dans cette diversité. Je voudrais tout d'abord saluer les révolutions arabes et leurs représentants autour de cette table pour l'espérance qu'elles ont fait naître dans le monde arabe et ailleurs en faveur de la liberté, la démocratie, les droits de l'homme et la justice, comme ça vient d'être dit. Étant moi-même d'origine syrienne, appartenant à une minorité qu'on appelle les Syriaques ou les Assyriens ou Assyro-Chaldéens, tout en me sentant profondément arabe, j'ai vu pour la première fois le nom de ma région, Al Jazeera, à ne pas confondre avec la chaîne de télévision Al Jazeera, qui est située au nord-est de la Syrie, et ses villes, Hasaké, Qamishli, Ras El Ain, propulsées subitement sur la scène internationale grâce aux résistants syriens, alors que c'est une région marginalisée et négligée par les pouvoirs publics à Damas. Cette province est à elle seule une mosaïque de minorités. Au cours de mon enfance, j'ai dû y entendre non moins de 7 langues, l'arménien, croisé l'arabe, croisé le tcherkesse, croisé le syriaque, etc. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est que j'ai entendu les manifestants syriens scander des phrases du genre « Permettez-moi d'abord de vous les lire en arabe. « Arab, akrad, ashuriyun, kulluna suriyun. Arabe, kurde, Assyriens, nous sommes tous Syriens. » Et une autre, « La Kurdiya, la Arabiya, bidna wahda wataniya. » Ni Kurdes, nous, ni Arabes, nous voulons l'unité nationale. Et une autre, « Muslimoun wa Masihiyoun, kulluna muwatinoun. » Musulmans et chrétiens, nous sommes tous des citoyens. Mais également sur la place al-Tahrir, Maïdan al-Tahrir, dont il était question tout à l'heure, au Caire, où on a vu la croix chrétienne et le croissant musulman s'entrelacer, et chose inouïe, une messe célébrée en plein air et des chrétiens et des musulmans prier ensemble, nous avons également entendu des slogans libérateurs qui insistaient sur la citoyenneté commune, une citoyenneté fédératrice, un état civique, Daoula Madaniya, et des valeurs communes comme l'égalité et la non-discrimination, la liberté de religion et de conscience. Et voilà que nous entrons dans le vif du sujet. Le monde arabe est un ensemble complexe, composé de 22 États, tous membres de la Ligue arabe, et qui s'étend du golfe arabo-persique à l'Atlantique, et qui compte plus de 370 millions d'habitants. Y a-t-il des caractéristiques communes au monde arabe? À l'évidence, oui, ce monde a des traits communs et des points de convergence importants d'ordre historique, civilisationnel, linguistique, culturel, religieux et national. C'est un monde nationaliste, mais le mot nationaliste n'a pas le même sens qu'ici, lequel s'explique par l'histoire et la lutte contre la domination coloniale, qui se dit fier de son appartenance arabe et de son identité. Cela dit, il existe plusieurs visions du nationalisme arabe qui varient d'un nationalisme intégral à un nationalisme souple. D'autres facteurs qui unissent au monde, je le dis d'autant plus librement que je suis chrétien, c'est la religion, c'est l'islam, lequel se veut une référence non seulement religieuse, mais également culturelle et civilisationnelle. D'ailleurs, il suffit de constater sa place dans les constitutions arabes et ses liens avec le droit, la société et la vie politique. C'est également un monde en effervescence politique et en quête de démocratie, de liberté et de droits de l'homme. J'avais publié en 2008 un ouvrage intitulé « Fièvre démocratique et ferveur fondamentaliste » dans lequel je faisais l'éloge quelques années avant de ce monde qui est en train de germer et en train de naître. Mais ce monde a-t-il d'autres caractéristiques que celles que je viens de citer ? Oui. Traditionnellement, quand on présente le monde arabe, on n'a pas toujours conscience qu'il se compose d'éléments différents. En fait, ce monde est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense, et le printemps arabe l'a mis en évidence depuis décembre 2010. C'est un monde multiculturel, multinational, multilinguistique, multireligieux et multiconfessionnel. Il suffit à cet égard d'interroger son histoire pour s'apercevoir qu'il n'est ni uniforme ni monolithique et qu'il englobe des populations qui ont été souvent marginalisées par l'histoire dominante et non par les peuples et injustement traitées par les politiques officielles. Ce sont pourtant des populations autochtones dont l'histoire remonte au passé lointain, à des civilisations telles que les pharaons en Égypte, les Mésopotamiens en Irak, les Phéniciens en Syrie, les Cananéens, les Numides, les Berbères en Afrique du Nord. Ce monde est constitué de plusieurs minorités de types différents et leur situation diffère d'un pays à l'autre. Il y a des minorités nationales et ethniques. Quelques exemples, vous avez les Kurdes. Les Kurdes vivent en Turquie, mais il y a aussi beaucoup de Kurdes dans les pays arabes. Il y a plus de 4 à 5 millions de Kurdes en Irak. Il y a plus de 1,5 million de Kurdes en Syrie, notamment dans ma région, Al-Jazira, qui se situe au nord-est du pays. Vous avez les populations berbères en Afrique du Nord, notamment en Algérie, au Maroc et aussi en Libye, et une toute petite minorité en Tunisie. Vous avez la communauté à laquelle j'appartiens moi-même, les Assyro-Chaldéens ou Syriaques, qui sont présents notamment en Irak, en Syrie, au Liban, etc. Vous avez des minorités religieuses. Vous avez des minorités d'abord dans l'islam lui-même. Ici, en Europe, on a tendance à présenter l'islam d'une manière uniforme et compacte. Or, l'islam également est traversé en son sein de courants, de tendances, de l'école qui sont très riches. Il y a les sunnites, il y a les chiites, mais il y a les ibadites au sultanat d'Oman qui a une autre lecture de l'islam. C'est pour dire que ce monde est très divers. Vous avez à Bahreïn une communauté chiite qui est importante et qui est sur des bases civiques puisqu'ils réclament l'égalité de tous les citoyens, quelle que soit leur obédience religieuse. Vous avez en Arabie Saoudite également une communauté chiite qui est importante. Vous avez également toutes les communautés chrétiennes dans leurs multiples dénominations. Vous avez les Arméniens qui sont une communauté religieuse et en même temps qui sont une communauté ethnique et culturelle puisqu'ils ont, ils ont leur propre langue, leur propre culture. De toute façon, c'est le cas de toutes les minorités chrétiennes d'Orient qui sont, je le rappelle, dans ces pays depuis 2000 ans. Ce n'est pas des communautés qui ont été christianisées par je ne sais quel missionnaire zélé occidental. C'est un christianisme qui est né sur cette terre et donc qui n'a pas de leçon à recevoir de citoyenneté des autres. Vous avez des communautés syriaques, vous avez des communautés chaldéennes, vous avez des communautés grecques catholiques, vous avez les grecs orthodoxes, et vous avez les chaldéens. En Irak, il n'y a pas moins de 700 000 chrétiens, dont une partie a pris le chemin de l'exil depuis que ce pays a été envahi par les troupes américaines sous Bush en 2003. En Syrie, vous avez une communauté chrétienne de plus d'1 million à Alep, notamment dans la Jézirée, à Damas, et qui sont des citoyens qui ont de tout temps participé à la modernité, à la renaissance arabe, et qui se sentent profondément citoyens du pays, et une grande partie de ces communautés chrétiennes se sentent arabes. Moi, je suis moi-même, j'appartiens à une communauté, ma langue maternelle a été le syriaque ou l'araméen, mais en même temps, je me sens profondément arabe. Et je porte en moi la civilisation arabe, et je dirais même plus, la civilisation arabo-musulmane, parce que c'est une culture. Donc, ça, c'est des choses qui sont à deviner. Et vous avez évidemment les communautés chrétiennes en Égypte que vous connaissez, les Coptes, qui représentent plus de 10% de la population, c'est-à-dire sur 85 millions d'Égyptiens, plus de 10%, autour de 10, on parle de 10 millions parce qu'il n'y a pas de recensement tel comme tel, et qui, si on prend l'histoire de ces communautés chrétiennes, notamment des Coptes, il y a des cas de persécution, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que ces Coptes ont de tout temps participé à la renaissance arabe parce qu'ils se sentent arabes. Vous voyez, là, Makram Ubaid, qui est un grand écrivain égyptien, qui était un des leaders du parti Al-Wafd dans les années 30, il disait « Ana Arabi, je suis arabe, ou Al-Masr Arabiya, et l'Égypte est un pays arabe ». Donc je crois que ce sont des pans entiers d'histoire de ces pays, de leur civilisation, qu'il est important aujourd'hui, voyez, de revaloriser, et grâce à ces révolutions, voyez, arabes, on a vu malgré les intimidations, malgré la terreur exercée ici ou là, on a vu ces communautés participer à part entière à ces révolutions arabes. J'étais il n'y a pas longtemps, il y a un mois, moins de mois, j'étais en Tunisie, même si la Tunisie n'a pas de communauté, son histoire est différente. Elle a un passé, celui de Carthage, elle a donné Tertullien, c'était un Tunisien, Cyprien était un Tunisien, Augustin était un Berbère. J'ai eu l'occasion d'aller assister à une messe à la cathédrale sur Nahj Bourguiba. Et là, je peux vous dire que le peuple tunisien est un peuple qui est extrêmement tolérant, où la différence de religion, de croyance ne pose aucun problème. Alors, en conclusion, ce sont les révolutions arabes qui ont mis les droits de l'homme au cœur du combat comme nécessité historique des peuples qui aspirent à la liberté et à la démocratie. Le monde arabe, malheureusement, vu la nature de ce régime antécédent et certains régimes aujourd'hui, n'a pas su suffisamment profiter des richesses qu'il recèle. Il importe maintenant que les minorités soient pleinement reconnues et voient leur droit à l'égalité et à la non-discrimination confirmés. Formons le vœu qu'il saura intégrer ces populations minoritaires et leur culture dans un projet global et une citoyenneté commune par-delà les appartenances particulières. Du traitement des minorités dépendra en grande partie la stabilité et la paix dans le monde arabe. Et merci de votre attention.